Turquie, 4h30 à Paris, il est 5h30 à Khartoum.
Nemo en piste.
Au Soudan, la reprise du palais présidentiel par l'armée du général Al-Burhan va-t-elle marquer la fin de la guerre ? C'est un tournant majeur, mais le conflit est loin d'être fini, estiment des observateurs. De leur côté, les paramilitaires disent que la bataille pour le palais n'est pas terminée. La situation humanitaire est catastrophique. Le cri d'alarme d'un membre de la société civile basé à Walikale, centre-ville du Nord Kivu, touché par de violents combats entre armées et groupes armés M23 dans l'est de la RDC. Sur place, il n'y a plus de médicaments et les routes sont coupées. Netumbo Nandi Ndaitwa est devenue à 72 ans la première femme présidente de Namibie, elle qui espère que sa victoire va donner des idées à toutes les femmes d'horizons divers, dit-elle, à faire entendre leur voix. Au Gabon, ils seront finalement 8 en lice pour la présidentielle, on vous les présente. Et puis on retrouve Binyam Girmay, le cycliste érythréen au départ de Milan-San Remo, la première grande classique de l'année. Presque 2 ans désormais après le début de la guerre entre paramilitaires FSR et armée régulière au Soudan, cette dernière a repris hier matin le contrôle du palais présidentiel à Khartoum, aux mains des forces de soutien rapide depuis avril 2023. Une avancée significative après des semaines d'opérations pour reconquérir la capitale qui ne signe pas pour autant la fin du conflit. Explication Paul Lorgerie.
Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en treillis, accompagnés de jeunes volontaires coiffés de bandeaux qui paradent dans l'enceinte d'un palais présidentiel en ruine. Après d'âpres combats, la reprise du lieu du pouvoir soudanais est, je cite, un coup dur pour les forces de soutien rapide du général Emeti, selon Alan Boswell de l'International Crisis Group, qui précise que cela marque un tournant majeur dans la guerre au Soudan. Les hommes du général Emeti ne comptent pour autant pas en rester là. Dans un communiqué, les FSR font savoir que la bataille pour le palais présidentiel n'est pas terminée. Et si leur empreinte à Khartoum se réduit, Roland Marchal, chercheur à Sciences Po, présage qu'un redéploiement pourrait s'opérer.
Une bonne partie des hommes et peut-être un peu de matériel va réussir à quitter Khartoum et se replier vers l'ouest du pays. Et que là-bas, le nombre de combattants des forces de soutien rapide sont beaucoup plus importants et peuvent permettre des combats acharnés et peut-être une contre-offensive.
En position de force, le général Al-Burhan a déclaré hier soir qu'aucune négociation n'aurait lieu avec les FSR, car les regards sont également tournés vers El-Fasher, capitale du Darfour du Nord, qui résiste tant bien que mal aux assauts répétés des paramilitaires depuis le début de la guerre. Selon Roland Marchal, les FSR pourraient y concentrer leurs efforts. Une conquête qui, je cite, donnerait une cohérence politique et territoriale à l'existence d'un gouvernement parallèle.
Le nord d'El-Fasher, justement, où ont éclaté de violents combats jeudi pour le contrôle d'une localité qui, si elle tombait, couperait un axe d'approvisionnement pour l'armée, selon le média Sudan War Monitor. Violents combats également hier dans l'est de la République démocratique du Congo, à Walikale centre précisément, c'est dans la province du Nord Kivu. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, en a pris le contrôle jeudi, mais hier, l'armée a tenté de répondre aux rebelles, les mettant sous pression avec une série de bombardements. Après ces fortes tensions, la situation humanitaire sur place semble délicate. Ceux qui n'ont pas fui la ville restent cloîtrés chez eux. Je vous propose d'écouter Fiston Missona, porte-parole de la coordination de la société civile Force Vive du territoire de Walikale.
Les organisations humanitaires qui tentaient justement de décompter le nombre de morts, l'M23 a interdit formellement que ces organisations humanitaires ne puissent pas faire cela, et surtout du côté de l'aérodrome. On ne sait pas qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui cache derrière tout ce qu'ils sont en train de faire au chef-lieu du territoire de Walikale. Sur le plan humanitaire, il faut savoir qu'une seule organisation humanitaire internationale, c'est MSF Hollande qui a assisté toujours la population dans l'ensemble du territoire. Mais toutes les zones de santé là, et sont dépourvus de médicaments. Et au moment où vous parlez, je ne sais pas où est-ce que l'MSF Hollande pourrait avoir justement des médicaments pour approvisionner là où ils sont en train d'intervenir. Et à ce niveau, donc, la population reste à l'air triste et sort. Au moment où nous vous parlons, d'abord, le territoire est enclavé et il n'y a pas de route. Et l'aérodrome qui était un projet pour la construction, qui malheureusement jusque-là ne s'est pas encore achevé, pour la question humanitaire, ça reste encore catastrophique.
Fiston Missonna avec François Mazet. Une première en Namibie, une femme à la tête du pays, Netumbo Nandi Ndaitwa, a prêté serment ce vendredi à Windhoek. Le chef de l'État sortant d'Angolo Mumba évoque l'une des filles les plus remarquables du pays qui brise un plafond de verre. Retour sur cette journée jugée historique par beaucoup avec Christina Okelo.
Des applaudissements et des you-you ont retenti à Windhoek, la capitale, lorsque NNN, comme on la surnomme, a prêté serment. C'est une vétéran de la politique qui prend les rênes du pays à 72 ans. Depuis l'indépendance en 1990, Netumbo Nandi Ndaitwa siège au Parlement. En 40 ans de carrière, elle a occupé plusieurs portefeuilles clés, dont celui des affaires étrangères, avant de devenir vice-présidente de SWAPO, puis de la Namibie. Figure de la lutte pour l'indépendance, elle a gravi les échelons du pouvoir, brisant les barrières du genre.
Je crois que mon élection à la présidence de mon pays encouragera les femmes d'horizons divers à se lever et à faire entendre leur voix, avec la conviction claire que je n'ai pas été élue parce que je suis une femme, mais sur la base de mes compétences.
Parmi les félicitations, celle de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, elle-même symbole de leadership féminin sous le continent.
Ma chère sœur, présidente Ndaitwa, l'Afrique et le monde vous connaissent depuis vos jours de Mama Swapo jusqu'aujourd'hui. Nous avons vu votre engagement sans faille pour améliorer la vie de tous les Namibiens et votre détermination à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité de cette grande nation.
À la tête d'un pays jeune, Netumbo Nandi Ndaitwa promet un mandat placé sous les signes de l'unité, de développement et de la lutte contre la corruption pour, dit-elle, bâtir une prospérité partagée.
Christina Okelo. Au Gabon, Zeneba Nyinga Shanning suivra-t-elle la voie de la présidence namibienne? Elle sera en tout cas la seule femme en lice pour la présidentielle. On connaissait déjà 4 candidats à la magistrature suprême et hier 4 autres ont été repêchés par la Cour constitutionnelle après examen des recours. Ils seront donc 8 à se présenter le 12 avril prochain. 8, mais pas Jean-Rémi Yama, l'ancien leader syndicaliste qui dénonce un jour triste pour la démocratie. François Mazet.
Sur les 19 candidats écartés par le ministère de l'Intérieur, 13 avaient formé des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour tenter d'être intégrés à la course à la magistrature suprême. Parmi eux, seuls 4 ont obtenu gain de cause. 2 ans après avoir participé au scrutin annulé de 2023, Thierry Yvon-Michel Ngoma et Axel Stophen Ibinga Ibinga participeront à une deuxième campagne. Ce sera une nouveauté en revanche pour Alain Simplice Bungueres et Zeneba Nyinga Shanning. Cette chef d'entreprise de 36 ans avait été la première candidate à se déclarer le 7 février. Elle sera bien de la partie et la seule femme parmi les 8 prétendants. Les 4 repêchés rejoignent Brice Clotaire-Oligui Nguema, Alain-Claude Bilibinzé, Stéphane Boussengui Loco et Jacques Lapensée Singon. C'est fini en revanche pour Jean-Rémi Yama. Le syndicaliste, 2 fois emprisonné sous Ali Bongo, avait ajouté à son dossier le certificat de naissance manquant, prouvant l'origine gabonaise de sa mère. Mais la Cour n'en a pas tenu compte. Est-ce les valeurs d'honnêteté, de probité et d'intégrité que j'incarne qui vous font peur, a-t-il écrit sur sa page Facebook à l'adresse du chef de la transition.
François Mazet. Au volet économie de ce journal, l'Éthiopie a conclu un accord de principe avec ses créanciers publics sur une partie de sa dette extérieure. Addis Abeba avait fait défaut sur sa dette obligatoire en fin d'année 2023 et cette annonce intervient quelques mois après un accord avec le FMI et pourrait faciliter la négociation avec les créanciers privés. Plus de détails avec Claire Fage.
C'est un accord de principe et seule une partie de la dette extérieure de l'Éthiopie est concernée, 8,5 milliards de dollars de dette bilatérale sur un total de 30 milliards de dollars de dette extérieure. Mais selon le ministre éthiopien des Finances, le deal, négocié comme pour la Zambie et le Ghana sous le régime du cadre commun du G20 incluant la Chine, devrait permettre d'alléger les intérêts de 2,5 milliards de dollars sur la période 2023-2028. En juillet dernier, un accord avec le FMI avait ouvert la voie à la restructuration de la dette éthiopienne. Les autorités d'Addis Abeba avaient accepté de laisser flotter la monnaie, le birr, pour réduire le volume des importations et augmenter celui des exportations. Reste à renégocier la dette de l'Éthiopie auprès des acteurs privés, en particulier les obligations sur lesquelles le pays d'Afrique de l'Est avait fait défaut en décembre 2023.
Et puis du sport pour refermer ce journal et du cyclisme. Ce samedi marque le début des grandes classiques avant les courses en Belgique et dans le nord de la France. C'est en Italie que le peloton a rendez-vous pour la mythique Milan-San Remo, 116e édition et 289 km au programme. Et au départ, un certain Binyam Girmay, très discret depuis le début de l'année. Thomas de Saint-Léger lui a tendu son micro.
8 jours de course, une deuxième place pour meilleur résultat. Binyam Girmay a lancé sa saison piano-piano, en douceur, encore loin de ses standards de l'été dernier. 3 victoires sur le Tour de France, maillot vert en prime. C'est aussi de nouvelles attentes, un nouveau statut à assumer.
Tout est nouveau, à part moi. Vous avez le même Binyam Girmay devant vous. Ça n'a pas été dur de se remettre au travail, au contraire. Gagner m'a donné de la confiance. C'est plus facile aussi de sortir s'entraîner. Quand vous avez le moral, la motivation vient toute seule. Depuis que j'ai remporté ces grandes victoires, je me sens beaucoup plus heureux sur le vélo.
Heureux dans la vie, aussi, Binyam Girmay est devenu père pour la deuxième fois le mois dernier. Avec l'accord de son équipe, il est parti en Érythrée voir sa famille agrandie et préparer chez lui, sur les hauts plateaux, les classiques de printemps, des courses dont il rêve depuis sa victoire surprise il y a 3 ans sur les pavés de Grand Wevelgem. Alors voir Girmay briller à San Remo ou dans les Flandres, c'est aujourd'hui possible. Adrien Petit, l'un de ses proches coéquipiers.
Avec l'expérience qui va s'ajouter à sa force, il est capable de grandes choses sur les monuments. Pour le moment, il se focalise plus sur Milan-San Remo, mais on ne sait pas où sont ses limites et je pense que sur le Tour des Flandres, des Paris-Roubaix, il sera aussi à la hauteur d'aller chercher un grand résultat.
Paris-Roubaix pour plus tard, sans doute. Girmay ne devrait pas découvrir cette année la reine des classiques, sauf si, allez savoir, il venait à surprendre encore d'ici là.
Thomas de Saint-Léger, et puis cette information de dernière minute. Georges Foreman est décédé à l'âge de 76 ans ce vendredi, annonce faite par la famille du boxeur américain, ancien champion du monde poids lourd et entré dans l'histoire de sa discipline pour le combat du siècle en 1974 face à Mohamed Ali, face à qui il s'était incliné. C'était à Kinshasa, 4h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, entretien avec Olivier Vallée, ancien conseiller au Sahel et notamment au Niger, qui revient sur 2 décisions politiques récentes du pays concernant le pétrole et la francophonie. Il est l'invité de Christophe Boisbouvier. Une rencontre musicale et amicale. Ablaï Sissoko et Cyril Brotto sortent leur 2e album commun. Ça s'appelle Gio. Retour sur les massacres coloniaux de la France. C'est à la une de Jeune Afrique ce samedi avec François Soudan. Mais avant cela, le reportage Afrique. À Berberati, dans le sud-ouest de la République centrafricaine, pour le 2e épisode de notre série consacrée au quotidien de cette ville, où les plaintes fusent et s'accumulent sur les routes, notamment nombre d'entre elles sont en piteux état. Résultat, la circulation y est difficile, mais surtout les activités socio-économiques tournent au ralenti. Certains jeunes ont donc pris des initiatives pour reconstruire certaines portions des routes. Sur place, Orlov Steph Domialeux.
Au volant de sa voiture, Albert affronte les voies impraticables qui traversent le quartier de Djambala. Pendant cette saison des pluies, le ravin s'est agrandi et la mobilité est pénible. Pris au piège dans une mare, cet homme de 36 ans joue avec son volant pour éviter de tomber dans les ravins.
La route est impraticable à cause de l'érosion des nids de poules et du manque d'entretien. Je suis en train de m'embourber et il va falloir faire demi-tour. À chaque saison des pluies, les trous et les ravins se développent, c'est très pénible.
Le taxi-bus de Mahamat, lui, est en route pour Kenzou, ville frontalière avec le Cameroun. Mais un camion s'est renversé dans les ravins, bloquant la circulation depuis quelques minutes. Alors que les badauds tentent de faire sortir les rescapés, Mahamat craint également pour son sort.
C'est un casse-tête pour circuler dans cette ville. Il n'y a pas de rénovation et l'érosion abîme toutes les routes. Il faudra plusieurs jours pour retirer le grumier qui s'est renversé. Nous sommes tous coincés à cause de ce passage pourri.
Dans ce calvaire, des jeunes volontaires de la ville tentent de débloquer la situation. On les retrouve dans certains quartiers de Berberati, armés de pelles, de touches et de bouettes. Ici, au quartier de Difolo, une dizaine de jeunes sont en activité. Ils n'ont pas de gants, de casques et de bottes. Jean déchiré, t-shirt noir démembré, Gabriel veut changer les choses.
La route n'a pas été réhabilitée depuis plusieurs décennies. Nous avons bouché quelques trous avec de la latérite pour alléger la souffrance des usagers.
À moto, à vélo, derrière un volant ou à pied, les 100 000 habitants de Berberati vivent le calvaire. Plusieurs quartiers sont coupés les uns des autres selon Yalis, membre de l'équipe.
À certains endroits, nous remplissons des sacs de sable que nous mettons dans les ravins pour empêcher leur progression. Certaines personnes de bonne volonté nous donnent des cadeaux pour nous encourager, mais on n'oblige personne, c'est un acte volontaire.
L'axe Berberati-Kenzo est l'une des voies de ravitaillement de la République centrafricaine depuis le Cameroun. Selon une source à la direction des travaux publics de la ville, des études sont en cours afin de lancer les travaux de réhabilitation de ces routes dans les prochains mois. Rolf Esteve Dumale, de retour de Berberati, RFI.
Série de reportages à retrouver sur l'application RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les grands titres de ce samedi 22 mars 2025. De grandes manifestations hier en Turquie pour le troisième soir de suite. Cortège de centaines de milliers de personnes à Istanbul, Ankara et Izmir à l'appel du parti CHP. Une mobilisation pour protester contre l'arrestation de son leader, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Les manifestations étaient interdites et ont été réprimées avec du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Au moins 97 personnes arrêtées. Israël au bord de la crise constitutionnelle. La Cour suprême gèle la décision du gouvernement sur l'éviction du chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. Le Premier ministre menace de passer outre. La procureure générale met en garde Benjamin Netanyahou. La principale centrale syndicale israélienne menace de grève. Et puis la défense civile de Gaza annonce que les frappes israéliennes sur le territoire ont fait 5 nouveaux morts cette nuit. Des enfants tués à Gazaville. Cela porte à 520 le bilan des morts annoncé par la défense civile depuis la reprise des bombardements israéliens mardi. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni demandent un retour immédiat à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, se disant révolté par le bilan parmi les civils depuis qu'Israël a rompu la trêve. À la une du magazine Jeune Afrique ce samedi, un éditorial consacré à une controverse politico-médiatique qui concerne la France et l'Algérie. Pour en parler, Catherine Potet reçoit le directeur de la rédaction, François Soudan.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
C'est vous qui signez cet éditorial et vous revenez sur les propos d'un journaliste français, Jean-Michel Apathy, qui a dénoncé le mois dernier les crimes coloniaux commis par la France en Algérie. Des propos qui ont donc fait polémique et vous parlez à ce sujet du sacrilège de monsieur Apathy. Pourquoi un sacrilège ?
Oser comparer le massacre d'Oradour sur Glane, enseigné à juste titre dans toutes les écoles de la République, avec cet angle aveugle de la mémoire nationale que furent les hécatombes de la conquête coloniale de l'Algérie, ça a valu, vous l'avez dit, à ce vieux routier du journalisme qu'est Jean-Michel Apathy, d'être littéralement cloué au pilori par la sphère politique médiatique d'extrême droite au motif qu'il aurait sali l'image de la France. Or, vu d'Afrique, en d'autres termes, vu du côté des victimes de la colonisation et de leurs descendants, personne n'ignore que ces oradours dénoncés par Apathy ont été une stricte réalité et qu'ils ont eu pour théâtre l'ensemble de l'Empire colonial français. Il y a eu l'Algérie, bien sûr, avec une conquête féroce, ponctuée d'actes quasi génocidaires comme l'asphyxie ou l'emmurement collectif de tribus entières, âges et genres confondus, acte revendiqué par leurs auteurs en un siècle où on n'avait aucune pudeur à s'en vanter. L'Algérie, mais pas que. Je rappelle dans cet édito les massacres de Casablanca et de Settat au Maroc en 1907. Et j'invite Catherine, les lecteurs, à suivre la piste sanglante de la colonne infernale des capitaines Voulé et Chanoine du Sénégal au Niger entre janvier et juillet 1899, 2000 kilomètres d'une équipée sauvage où la troupe coloniale commandée par 9 officiers sous-officiers français se livre à une orgie de décapitation, d'éventration, de viol, de pendaison avec cet oradour multiplié par 10 que fut l'anéantissement des habitants de la cité de Birnin-Koni au Niger. Tout cela dans le cadre d'une stratégie de la terreur parfaitement admise par l'état-major, à une condition, qu'elle se déploie à l'abri des regards, Catherine.
Vous parlez donc, François Soudan, d'oradours coloniaux qui ne concernent pas que la période de la conquête coloniale, mais aussi celle de la décolonisation.
Tout à fait. Sans épiloguer sur les multiples exactions dont les guerres d'Indochine d'Algérie ont été le théâtre, deux exemples africains, Catherine, Moramanga, Madagascar, le 5 mai 1947, 166 cadres et militants indépendantistes enfermés dans des wagons à bestiaux sont abattus sur ordre du général commandant des forces françaises, engagés dans une campagne de répression qui fera près de 100 000 victimes à Madagascar. Et puis Ekité, en Sanaga-Maritime au Cameroun, le massacre en décembre 1956 de 100 à 200 civils par une unité de la police coloniale dans le cadre de la campagne de pacification menée par le haut commissaire Pierre Messmer contre les maquis de l'UPC, Catherine. Tout cela est documenté, mais rien de cela n'est enseigné.
Enfin, vous écrivez aussi, François Soudan, que la boîte de Pandore ouverte par Jean-Michel Apathy a aussitôt été refermée. Il s'agit donc de continuer à taire des faits avérés.
Je le crains, hélas, même si Emmanuel Macron a eu le courage, c'était en 2017 à Alger, de qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Les points d'acmé de ce crime que furent les oradours coloniaux sont les grands absents des manuels scolaires en France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. On est encore très largement dans le déni, un déni agressif et politiquement manipulé, comme on le voit avec l'affaire Apathy. Or, il faut être clair, Catherine, si contrairement à la SS nazie, l'armée coloniale française n'a jamais été imprégnée d'une quelconque idéologie génocidaire, ses méthodes, son comportement n'ont eu parfois, mais trop souvent, rien à lui envier.
Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.
François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, il était avec Catherine Poté. Voilà quelques jours que le Niger est sur tous les fronts. La semaine dernière, Niamey a expulsé trois dirigeants chinois de sociétés pétrolières, puis a en début de semaine décidé de rompre avec la francophonie, tout comme les deux autres membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso. Comment expliquer ces deux choix politiques consécutifs? Élément de réponse avec Olivier Vallée, économiste et ancien conseiller technique au Sahel, notamment au Niger. Il est au micro de Christophe Boisbouvier.
Olivier Vallée, bonjour.
Bonjour.
Pour expliquer leur rupture avec la francophonie, les trois pays de l'AES affirment que l'OIF est un instrument politique téléguidé, sous-entendu par la France. Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à 2025 pour rompre?
Ce qui s'est passé, c'est que les trois pays de l'AES ont essayé, via l'OIF, de rétablir des relations plus paisibles avec Paris et qu'à chaque fois, ça a été, en particulier vis-à-vis du Niger, ça a été un refus catégorique. Deuxième facteur, c'est qu'en grande partie sous l'influence de l'Élysée, l'OIF a été peu à peu rempli à un certain nombre de postes de franco-sahéliens. Et les franco-sahéliens qui étaient dans l'OIF ont plutôt milité ouvertement contre les pays de l'AES.
Est-ce que la réintégration dans l'OIF de la Guinée-Conakry, c'était en octobre dernier, a provoqué un mécontentement chez les pays de l'AES?
Non, pas vraiment. C'était simplement la manifestation de plus qui tendait à prouver que les proscrits de la francophonie n'étaient pas les ennemis de la démocratie, mais plus spécialement ces trois pays de l'AES.
Le Niger est aussi dans une relation exigeante avec son partenaire chinois, puisqu'il vient d'expulser trois responsables chinois de la gestion de sa filière pétrolière. Pourquoi cette mesure d'une grande fermeté?
En matière pétrolière, les grands accords sur l'ensemble de la filière, que ce soit le pipe, qui est géré par une filiale sino-béninoise WAPCO, la raffinerie Soraz, qui est à Zinder, qui est une filiale sino-nigérienne, et l'extraction même du pétrole qui est assurée par la compagnie chinoise CNPC. Ce sont des accords qui ont été passés principalement par l'administration Issoufou et pour ce qui est de WAPCO, par un ministre du pétrole qui s'appelle Bazoum, qui va devenir ensuite, on le sait, président. Donc, je crois qu'il y avait un litige ou plusieurs litiges sur tous les contrats qui ont été signés pendant l'administration Issoufou et l'administration Bazoum, et que des incidents récents lors de la convocation de dirigeants chinois des filiales nigériennes semaines auprès du ministre du Pétrole. Ça a été d'une certaine façon la goutte de pétrole qui a fait déborder le baril et qui a poussé le gouvernement du Niger à cette décision d'expulsion dans un cadre juridique. Maintenant, le dossier est confié au ministre de la Justice qui va demander plusieurs audits et en particulier un audit sur le fonctionnement de WAPCO.
Donc en fait, c'est pas une mesure individuelle contre ces trois cadres chinois, c'est une mesure contre l'État chinois qui ne verse pas assez de royalties et qui ne paye pas assez d'impôts.
C'est certainement un des éléments qui devrait apparaître à la suite des audits et de la révision des contrats. Et on est un petit peu dans le cadre de la reconquête du contrôle des ressources minières qu'on observe dans les autres pays de l'AES. Ce qui est plus particulier dans le cas nigérien, c'est que toutes les clauses des contrats passés avec les administrations précédentes sont restées secrètes et n'ont pas été transmises au gouvernement actuel du Niger. Donc l'identification du manque à gagner ou du déficit fiscal qu'aurait subi le Niger n'est pas encore établie. Et donc ces trois responsables chinois n'ont pas fait l'objet d'emprisonnement, de menaces, de rétention. Ils ont été expulsés par une décision motivée.
Le Niger a trop besoin de la Chine pour pouvoir jeter en prison des ressortissants chinois.
Je pense qu'il y a deux choses. Il n'est pas nécessaire pour le Niger d'arriver à une relation aussi tendue avec la Chine qu'avec la France, et que deuxièmement, la prison, en particulier pour des ressortissants étrangers, ne fait pas partie des habitudes du Niger.
Olivier Vallée, merci.
Olivier Vallée avec Christophe Boisbouvier en entretien à retrouver ce matin sur nos antennes et sur RFI.fr. h 55 ici à Paris, la fin de cette demi-heure en musique, alors que se tient à Marseille en ce moment le festival Babel Music XP, où le public a pu découvrir ou redécouvrir jeudi soir le duo formé par le choriste Ablaï Sissoko et l'accordéoniste français Cyril Brotteau. Ils se sont rencontrés il y a 5 ans maintenant et ont sorti Gio, leur deuxième album commun. Olivier Roger les a rencontrés.
Ma chérie est fan de la musique d'Ablaï depuis Le Griot Rouge, depuis très longtemps. J'ai invité Ablaï à venir faire un concert solo dans notre salon. Ablaï a accepté, on ne se connaissait absolument pas.
Voilà. Donc Ablaï, quand on vous dit bonjour, je ne vous connais pas, mais venez chanter dans mon salon, vous acceptez?
Non, pas forcément, non, non. Sinon... Non, j'aimerais bien. Mais la plupart, j'accepte. Hein. Moi, je sais d'où je viens, c'est-à-dire ma tradition, ma culture, en étant un griot aussi. Souvent, quand on appelle un griot, s'il n'est pas occupé, il n'a pas le droit de refuser.
Début que je joue, moi je joue des musiques de tradition populaire occitane du sud de la France, et le contexte actuel, c'est le contexte de danse, c'est le contexte de bal. Là on n'est plus du tout dans le même contexte, on n'est plus du tout dans la même musique, donc il m'a fallu un peu pousser la réflexion pour savoir comment est-ce que j'allais faire. Alors après, on se rend compte qu'on n'entend pas les trucs du tout pareil, le début, les fins, les structures, les machins, tout ce que tu veux techniquement, et en fait au bout d'un moment on dit bon ben tu sais quoi, on va arrêter d'en parler, et en fait on va jouer.
Derrière les instruments, il y a les hommes. Maintenant, quelle est l'histoire que ces hommes-là veulent raconter, en fait, c'est ça. Donc, si on a envie vraiment de raconter nos histoires, il n'y a pas de raison que les instruments ne suivent pas.
On s'alimente tous les deux en se faisant des propositions, et évidemment on passe un temps à se les approprier, on passe un temps à les jouer, on passe un temps à s'en imprégner.
Et si le feeling est là et cette envie de partager, voilà, c'est une chose très naturelle aussi.
Un sujet signé Olivier Roger du service culture de Radio France Internationale. 4h59 ici à Paris. C'est la fin de cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Thierry Le Saint, à la réalisation, à Vincent Dublange, à la rédaction en chef. La deuxième édition d'Afrique Matin dans un peu plus de 30 minutes. Maintenant, ce sera avec Xavier Besson. Avant cela, vous retrouvez l'actualité internationale et le journal de Martin Guèze dans une minute. À tout de suite.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Les canons de beauté évoluent avec les réseaux sociaux. Au Maroc, cela touche les femmes et les hommes également. Plus traditionnel, le henné, symbole de joie, arme de séduction. En Mauritanie, il déploie ses motifs géométriques sur les mains et sur les chevilles des femmes.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI. L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.